que sur l'université, je parlais d'un incident négatif, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris le développement. Donc pourquoi c'est un incident négatif qui pourrait exister mais qui devrait être évité?
Si on prenait pas compte, ben écoutez, l'enfant qui a 18, enfin qui a 22 ans, enfin la personne, pas l'enfant, la personne qui a 22 ans, qui travaille, paye des cotisations sociales, et dans ce cas-là, de toute manière, ne perçoit pas d'allocation familiale, puisqu'il travaille. L'enfant ou la personne qui décide de faire des études universitaires, forcément, non seulement ne génère pas de cotisations sociales, mais par ailleurs, est, en raison des règles applicables actuellement en matière d'allocation familiale, bénéficiaire de ces allocations. Et donc, en fait, vous mettez la communauté, lorsqu'elle aura reçu cette compétence, communauté flamande ou au sud de la région wallonne ou la COCOM, dans une situation où elle aurait tout intérêt à créer des règles qui disent, ben, à partir du 18e anniversaire, boum, plus d'allocation familiale. Mais ça crée un filtre social d'accès à l'université. Parce qu'alors, y a des parents qui, le cas échéant, comptent sur les allocations familiales dans le cadre des études de leurs enfants. Et donc, il faut bien vous rendre compte que, bien sûr, vous pouvez remédier ça autrement, vous pouvez dire, hein, si vous voulez pousser l'argument très loin, ben alors la communauté n'a qu'à donner des bourses d'études plus importantes. Oui, mais ça suppose qu'elle ait l'argent pour le faire. Et donc, la règle que j'ai énoncée, qui est d'une manière très intéressante, juste dans l'article après le montant de base, dit voilà, l'État fédéral peut augmenter des moyens supplémentaires pour précisément éviter quelque chose qui, en fait, dans l'intérêt de personne, je trouve que c'est une belle disposition fédérale. C'est-à-dire, c'est dans l'intérêt aussi du fédéral à long terme, parce que le fédéral a intérêt à avoir des gens qualifiés qui entrent sur le marché du travail, qui génèrent de la plus-value étant exprimée notamment aussi en termes de TVA. Donc à la longue, une population mieux instruite bénéficie, ne fût-ce que froidement fiscalement, aussi à l'État fédéral. C'est assez clair. Et donc de ce point de vue-là, le fédéral, dit le texte, peut donner des montants supplémentaires aux communautés. Non, pas trop dans l'état, à nouveau, hein, ça se réglé, hein, il y a les clauses, hein, on peut faire, bon, faut voir. Bon. Mais c'est possible. Et je trouve en tout cas intéressant que c'est prévu dès maintenant dans un texte de loi spécial et qu'il ne faille pas un jour devoir renégocier ça, parce qu'il est évident que c'est tout de même les francophones et la COCOM qui auront le plus besoin de renégociation, puisqu'en Flandre, avec une fusion budgétaire régionale et communautaire, vous pouvez là vous servir de l'autonomie fiscale régionale pour payer ça. Ce que vous ne pouvez pas au sud.
Maintenant, dans ce que tu dis, il y a quand même qui me paraît intéressant. C'est vrai que, et honnêtement, quand je dis que j'ignorais, j'en ai un peu à conseillerie. Il est des moments où toutes les allocations familiales ne sont pas le produit d'une cotisation. Honnêtement, ce que j'ignorais. Donc, ça remet quand même fondamentalement en cause une sorte d'idée qui était dominante et classique, selon laquelle il y avait cette égalité dans l'allocation familiale. Ce qui, vu de l'extérieur, est quand même une aberration totale. C'est-à-dire qu'on fait des allocations familiales, t'as des gens qui n'en ont pas besoin, et des gens qui en ont fondamentalement besoin en reçoivent d'insuffisantes. Et l'exemple du basculement de 18 ans est intéressant. Donc ça veut dire que demain, une communauté ou la COCOM à Bruxelles peut remettre en cause, sans devoir s'accorder sur l'ensemble du territoire national, cette sorte de philosophie de départ très charitable aussi, hein, parce que c'est un mélange de contrat et de charité, les allocations familiales. C'est pas hasard si les partis chrétiens y étaient cramponnés comme les naufragés du Titanic. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait, en période de crise, avoir une politique différenciée et avoir des niveaux d'allocations familiales différents, voire les faire disparaître à un certain niveau de revenus. Je comprends bien.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et on pourrait même, d'une manière relativement large, dire que les personnes au-dessus d'un certain revenu en toucheront moins, puisqu'actuellement, les allocations familiales, pour ce qui est du principe de base, ne sont pas liées aux revenus des parents. Hein. Ne sont pas liées aux revenus des parents. Donc ça, c'est théoriquement possible. La communauté peut... Elle peut aussi remettre en cause un autre point, qui est un point qui a été longtemps défendu pour des objectifs natalistes, c'est-à-dire que le deuxième et le troisième enfant touchent plus. Le deuxième enfant touche déjà bien plus que le premier, mais alors le troisième, ça touche encore bien plus. Et alors le quatrième, et cinquième et sixième touchent tous au niveau du troisième. Donc il est très clair que il y a là une volonté nataliste, mais qu'il faut à un moment donné réexaminer, d'une part quant à la possibilité de la financer, et d'autre part sur la question de savoir si ceci est toujours pertinent et si ceci est toujours intéressant. spécialement pour une région comme la région de Bruxelles-Capitale, à mon sens, la question se pose. Puisqu'elle est déjà une région, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de vieillissement à Bruxelles. La région de Bruxelles-Capitale est une région extrêmement jeune. Donc la question c'est, à mon sens, faut-il maintenir dans cette région un incitant de natalité? Faut-il faire ça? Sachant qu'il y a des classes de crèche sont difficiles, tout ça. Supposez d'ailleurs maintenant que les autres, à côté par exemple, la femme ne le fasse pas, et vous continuez à le faire. Dans ce cas-là, à la rigueur, c'est encore pire. Donc, à mon avis, ce sont là des questions dans lesquelles il faut les aborder d'une manière philosophique et du logique, hein, c'est le rôle des partis politiques, mais aussi, à mon avis, ce volet-là prendra vite tout son essor, c'est évidemment la question de la finançabilité, tout ça. Hein.
Mais donc là, il y a quand même une question politique, et c'est vrai que c'est transposable, là je te rejoins totalement. Il y a quelque chose d'intéressant dans... J'adore le terme défédéralisation qui me choque un petit peu par rapport à ce qu'on a toujours dit. Ça prouve que c'est le bordel le plus complet aujourd'hui sur la définition des entités fédérées, puisqu'on n'ose plus parler de communautarisation, on n'ose plus parler de régionalisation. Donc, de manière passive, on dit, en tout cas, le seul point terminologique sur lequel on peut s'accorder, c'est une défédéralisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet donc d'avoir un outil politique adapté aux caractéristiques d'une région. Et à cet égard... c'est plutôt un mieux. Enfin, moi, je le ressens comme tel en t'entendant. Ce n'est pas forcément évident au départ, mais je trouve que c'est plutôt un mieux. C'est-à-dire qu'en effet, la politique que tu peux mener à Bruxelles n'est pas la même que celle que tu mènes en Flandre. Et le caractère national de l'ensemble figeait quand même très fort. Et en fait, ça faisait le palais d'Abel et Bois dormant, c'est qu'on ne changeait rien à ce qui était le système antérieur. Tandis qu'ici, il y a un incitant à en faire un outil futile économique, d'ailleurs, de dynamisation de certains secteurs, en tout cas de certaines régions. Manuel.
Merci pour votre exposé. Il y a 30 ans, nous avons expliqué le mois dernier, je crois, une faute d'appel qui a été retenue pour fixer des dotations pour différentes entreprises fédérées. On ne tenait pas compte du caractère majoré ou non des allocations familiales.
C'est très juste.
Versées aux enfants. Et donc, j'aurais aimé avoir vos sentiments sur la viabilité du système d'allocations familiales, à Bruxelles particulièrement, mais aussi qui est partout plus importante des allocations familiales. Ma deuxième question, alors peut-être en rapport avec la possibilité pour les entités fédérales de mener une politique autonome en matière d'allocation familiale, dans quelle mesure l'accord qui semble être intervenu entre le niveau wallon et le niveau bruxellois peut avoir un impact sur cette possibilité?
Je vous réponds bien volontiers. Alors pour la situation de la COCOM, quelle est la situation actuelle? Actuellement, la COCOM a un budget de 97 millions d'euros. 97 millions d'euros qui est financé comme suit. Il y a pour la COCOM différentes sources de financement. Une première source de financement, c'est une dotation du fédéral qu'elle reçoit. Cette dotation est la seule qui est dans le budget général des dépenses. C'est d'ailleurs une incohérence totale. Les autres dotations pour les communautés régions sont dans le fonds budgétaire des dotations. Mais la dotation pour la COCOM est dans le même poste que la liste civile et la dotation pour la Chambre et le Sénat et la Cour constitutionnelle. Donc c'est absolument absurde, mais c'est là. Si vous la cherchez un jour, il faut la chercher tout au début. Elle est tout aussi importante pour figurer directement après le roi. Voilà. Donc c'est là qu'elle se trouve. Donc elle touche une dotation du fédéral selon l'article 65 de la loi spéciale de financement. Alors, deuxième source, vous allez tout de suite rire, elle peut recevoir des donations. Hein, voilà. Comme ça, je l'aurais dit, hein, je ne l'aurais pas oublié. Troisièmement, elle peut avoir des recettes non fiscales propres. Je ne vois pas très bien, enfin, elle peut créer, je ne sais pas moi, faudrait un truc bipersonnalisable avec un droit d'entrée. Et bon, oui, enfin bon, oui, on peut imaginer. Hein, je ne sais pas moi. Bon, oui, on pourrait faire. Bon. Des contrôles de dopage payants à Bruxelles, à mon avis, ouais, ça serait peut-être. Si vous avez une recette fiscale, une recette non fiscale là-dessus, bon, ce serait. Bon, enfin, bon. Si vous regardez dans le budget de la COCOM, je crois que c'est budgété à 0 ou à 5, en fait, c'est presque rien. Vous pouvez aussi vendre une maison. Dans ce cas-là, vous avez ça. Ils ont fait ça, je crois, cette année. Ils ont vendu un immeuble, alors c'est une recette non fiscale propre, mais bon, ça one shot, évidemment. Voilà, et alors quatrièmement, actuellement il existe un article de mémoire, je crois que c'est le 80 paragraphe 3 de la loi spéciale sur Bruxelles, qui est la possibilité pour la région de donner de l'argent, de faire un transfert à la COCOM. Alors le 83 paragraphe 3 pose un problème parce qu'on dit, quand vous le lisez, il est affecté parce qu'on dit pour le financement. Non, 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 non. Et d'ailleurs, quand vous allez voir l'origine du fonds, c'est-à-dire dans le budget régional, il est affecté parce qu'on dit financement de la COCOM pour... Donc on ne peut pas en faire tout ce qu'on veut, et je puis vous dire qu'il y a des gens qui surveillent ça de très près. Je ne peux pas vous dire où ils sont, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui surveillent ça de très près. Bon, alors, maintenant, donc, si on veut désaffecter ça, c'est-à-dire si on veut permettre à la COCOM d'avoir de l'argent de la région qui n'est pas affecté au sens de l'article 83 ter, paragraphe 3, il vaut mieux réécrire, et ce qui a été fait, puisque l'article 65 de cette loi qui porte encore de date, donc document parlementaire 2074, donc cette loi spéciale de financement, va modifier l'article qui fixe les sources de financement de la COCOM pour dire, voilà, elle peut recevoir une dotation de la région, et bon, cette dotation-là n'est pas affectée. Bon. Et puis alors, elle va recevoir, conformément à l'article 47-5, la dotation du fédéral pour les allocs. Et toutes les autres dotations aussi pour les maisons de soins, les homes, tout ça, elle va recevoir à chaque fois la dotation qui lui revient. Comme pour les autres, chaque fois, sauf pour les normes de justice et les pôles d'attraction universitaire, parce que forcément, ça ne le fait pas. Mais toutes les autres, elle les reçoit aussi. Bon. Mais il y a quand même un problème. Donc ça, c'est le tableau. Son budget va passer à peu près, sans doute, à 1,1 milliard. Hein. Donc c'est fois 10, fois 11. Donc il faut se dire que, d'une part, ça pose un problème de gestion, hein, parce qu'avec les quelques fonctionnaires qui sont, ça va être un peu difficile. Alors, je me permets d'insister sur le fait que le transfert d'office de fonctionnaires du fédéral, c'est-à-dire d'une institution de sécurité sociale fédérale à la COCOM, n'est pas évidente. Vous êtes dans aucun cas de transfert d'office, dans aucun cas où c'est possible, puisque l'ONAF-TS n'est pas soumis directement à l'arrêté de 37, donc on ne pourrait pas entrer dans les détails, mais enfin, c'est compliqué. Ouais. Mais supposons qu'ils ont toutes ces personnes pour gérer tout ça. Le problème va ensuite être, évidemment, le problème que vous avez soulevé, c'est-à-dire que la clé de répartition pour les enfants est une clé qui ne tient pas compte du rang. Et donc, paye le même montant à chaque enfant. De 0 à 18 ans, indépendamment de savoir si c'est le deuxième ou le troisième. Et donc, forcément, une région, vous avez beaucoup de ménages, enfin, des ménages avec beaucoup d'enfants au sein d'un même ménage, c'est plus cher que le même nombre d'enfants avec des familles qui n'ont chacun qu'un enfant. Donc, en fait, le nombre d'enfants peut donner lieu à des dotations totalement différentes, alors que vous avez le même nombre d'enfants entre 0 et 18 ans, ça dépend comment ils sont répartis sur le nombre de ménages. Bon. Alors, il y a une chose que je ne crois pas du tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une thèse selon laquelle Bruxelles, en fait, avait un effet d'aubaine du fait qu'à Bruxelles, il y aurait des fonctionnaires européens, que ces fonctionnaires européens auraient des enfants, que ces enfants seraient donc pris en compte, puisque ces enfants habitent Bruxelles, et que donc il y aurait une sorte de montant que la COCOM recevrait, en quelque sorte un peu indûment, à Stumelix, hein, comme ça, pour des personnes qui en fait ne feraient pas la demande d'allocation familiale à Bruxelles. Je ne suis pas sûr, hein, on va voir ça. Pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas sûr que le fait que vous soyez fiscalement exonéré à Bruxelles en ait immédiatement pour conséquence que votre enfant ne relève pas du système de la sécurité sociale fédérale belge. Ça, je ne suis toujours pas sûr, ça. Pas sûr. Il suffit de penser, vous avez un fonctionnaire européen, une dame, l'épouse qui travaille en Belgique, et je ne vois pas pourquoi l'enfant ne pourrait pas toucher des allocations familiales belges. Je ne vois pas très bien. Donc je crois que cet effet d'aubaine, il peut exister, mais franchement... Si c'est un effet d'aubaine, il ne faut pas dire effet d'aubaine, il faut dire effet d'aubaine. Voilà, il faut le dire tout. Hein? Ça existe peut-être, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais bon, je ne ferai pas dépendre de cela l'avenir de la COCOM. Donc, il y a un refinancement de Bruxelles, ça c'est sûr, ça. Il y a l'article 65, quatrièmement nouveau, c'est-à-dire la possibilité que la région reverse des montants à la COCOM. Oui, mais je crois que la COCOM, if you want my message, je crois que la COCOM va devoir réfléchir sur la question des rangs. Et à mon avis, non seulement pour les questions de finances, mais aussi pour ce que, comme Lamarck l'a déjà très bien dit, si c'est un mécanisme de gestion publique, de politique, Alors on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas s'en servir pour dire dans une région qui a déjà un nombre très important de jeunes, qui n'est pas dans une situation de vieillissement comme Knokke-Zoute, il n'y a pas de raison à Bruxelles de stimuler l'arrivée de familles avec beaucoup d'enfants pour rajeunir la ville. La ville est déjà très jeune. Voilà. Je crois que ça c'est à peu près la réponse à la question que je voulais donner. Ah bien sûr. Alors, ce que vous êtes en train de pointer est évidemment le défi qui attend l'espace francophone plus généralement. Il faut être clair de ça. Hein. C'est qu'on a beau prévoir l'article, je vous ai dit là, dans le paragraphe obscur, là, que pendant 10 ans on maintient et tout ça. Mais enfin, we have to see the end of the line. End of the line, we will be a bit poorer. Ça, je crois, oui. C'est-à-dire que nous sommes une région à l'intérieur de la Belgique qui est inférieure à la moyenne de productivité nationale. Ça, c'est très clair. En termes de recettes fiscales générées. Et bon, on peut voir les choses comme on veut, mais un jour ça aura une incidence. D'ailleurs, il faut être honnête, c'est la volonté même de l'autonomie fiscale que de avoir plus chez soi de ce qui est produit chez soi. Ça, c'est l'évidence même. Donc, ce que vous pointez là va arriver. Alors, il faut se garder de discours catastrophistes. Et il faut aussi dire qu'il n'est pas illégitime d'avoir au nord des partis, pourtant que ce soit dit d'une manière constructive, qui disent, écoutez, on aimerait avoir plus d'autonomie sur des moyens financiers qui sont générés chez nous. Ça peut s'entendre, hein. Je peux vous dire, venant d'Allemagne, que c'est un discours que le CSU bavarois distille depuis 40 ans. Ceci dit, ce ne sont pas des mauvais Allemands pour autant, et ce ne sont pas des séparatistes pour autant, ce sont des fédéralistes relativement affirmés. Donc, je crois qu'il faut se garder de tirer de là un argument en disant, ouais, là, vous êtes plus tout solidaire. Non, il ne s'agit pas de remettre en cause fondamentalement tout le système de solidarité, mais on peut comprendre un parti politique qui dit, on aimerait avoir plus d'autonomie fiscale. Ça, je crois, oui. On verra aussi, dans la même lignée, on verra ce que le Sud pourra faire, la région Wallonne, pourra faire avec la déduction possible pour habitation unique personnelle. Bon. Actuellement, 2770 euros par tête de pipe, hein? Donc cumulable. Hein? Bon, on va voir si la région Wallonne, à moyen terme, pourra maintenir ça, ou si elle ne va pas diminuer. On verra ça. On verra ça. Bon, mais le fait est qu'effectivement, que les deniers publics au sud vont être un peu moins nombreux. Ça, je crois, oui. Tout le monde sait ça. Ouais. Non, il restera toujours, hein,
Il y a aussi le fait que le mécanisme 10-10, 10 ans de stabilité, 10 ans dégressif, va jouer sur la globalité et pas spécifiquement sur les 6 milliards 4 prévus pour les allocations familiales. Donc il va falloir à un moment au niveau des pouvoirs des entités fédérées, que ce soit la COPOM, la communauté française ou plus vraisemblablement la région Wallonne pour les allocations familiales, faire des arbitrages. Quelle politique allons-nous favoriser? Est-ce que ce sera les allocations familiales? Est-ce que ce sera l'accueil pour les maisons de repos et de soins ou des choses comme ça, ou les hôpitaux psychiatriques.
Je suis bien d'accord avec vous. La question va aussi être, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il faut dans un pays qui est tout de même géographiquement peu étendu, avoir, pour des raisons convictionnelles notamment, hein, il fallait un très bon hôpital catholique à chaque endroit, un très bon hôpital public à chaque endroit, et puis il fallait évidemment que même une ville de 15 000 habitants qui est juste à côté ait la même chose, parce que c'était inconcevable qu'on doive aller là-bas. Bon, ce genre de choses, il va un jour devoir en discuter. Alors il y a deux possibilités, soit il y a un certain nombre d'institutions qui sont alors obligées à se spécialiser pour certaines choses seulement, ou alors bon, il y a des gisements financiers nouveaux, mais je dois vous dire que pour ma part, le fait qu'il faille faire 50 km pour une intervention pointue ne me paraît pas constituer une remise en fondamentale du système de la sécurité sociale belge. Ça, on a très bien vécu de ce point de vue-là, et on a encore d'autres défis, notamment les pensions au fédéral. C'est pas comme s'il y avait que des défis au niveau communautaire. Hein. Le fédéral aura des défis importants en matière de pensions à gérer. On a été saisi, et je crois, M. Kounet, vous y étiez aussi. Est-ce que vous étiez à Santea quand la dame a fait le discours? Il y avait une dame du bureau du plan qui faisait un discours sur la courbe du vieillissement et l'évolution des pensions sur base des montants actuels, ce que ça donne. C'est très intéressant. Il n'y a même plus de questions après. Hein. Il n'y a plus de questions dans la salle. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des défis, non seulement au niveau communautaire, il y aura partout, et je ne crois pas que ce serait exact de dire que si ça s'était resté purement fédéral, qu'il n'y aurait pas de défis. Ceci dit, ces défis sont accrus par le fait, effectivement, que nous sommes dans le segment économique moins performant du pays. Ça, oui. Ça, oui. Aussi longtemps, je présume, permet de dire, aussi longtemps qu'il y a une règle qui reste, qui est celle que l'impôt est perçu au domicile. Hein? Ah oui, ça c'est, oui, oui. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sinon, on rediscute tout. Voilà. S'il vous plaît.
Merci pour la réponse. Les règles de rattachement des enfants sont basées sur le domicile aussi.
Voilà, alors...
Et,
alors, en droit interne, ça sera celle-là. J'y étais toujours très favorable pour une raison très simple, c'est que c'est un critère qui est vérifiable très rapidement parce qu'il est vérifiable d'une manière incontestable en raison d'une compétence fédérale qui est celle du registre national. Je peux à tout moment savoir où quelqu'un domicilié. Alors, est-ce qu'il y est vraiment? Est-ce que, bon, je peux contester ça, tout ça? Mais enfin, on ne peut pas être inscrit au registre national à deux adresses à la fois. Enfin, ça, c'est très bien. Par ailleurs, ça résout le problème des gardes alternées. Vous avez des enfants qui sont 15 jours là, 15 jours là. On peut très bien imaginer, entre Uccle et Krainem, 15 jours à Uccle, 15 jours à Krainem. Oui, sauf qu'une fois c'est la côté flamande, une fois c'est la Cocom. Hein? Ou entre Uccle et encore, vous prenez Bourg-en-Bosse, c'est vraiment juste à côté. Bon. Eh bien, il faut régler ça. Vous ne pouvez pas, tous les 15 jours, transférer le dossier. Hein? C'est impossible, ça. Donc, mais l'enfant, il ne sera domicilié qu'à un endroit. Ça, c'est très clair. Est-ce que ça peut donner lieu, le cas échéant, à un tout petit peu de forum shopping, comme on dit en droit international privé? Oui, oui, bon, mais ça, oui, mais ça, oui, ça a toujours existé, enfin, ça, c'est faux. Nous sommes un espace de liberté, ça, le Nord doit aussi accepter. Ça, le Nord doit accepter. Si vraiment le Nord payait plus, que des gens, le cas échéant, inscrivent leur enfant là-bas, bon, ça, c'est, je crois que ça, il faut accepter, ouais. Donc, c'est pour ça que ce critère me paraît bon. Maintenant, il n'est pas le seul, il ne va pas tout régler. Parce que vous avez par exemple l'ouvrier lillois qui travaille en Belgique, qui est assujetti donc à la sécurité sociale belge, qui a trois enfants à Lille, aucun d'entre eux n'est belge, aucun d'entre eux n'a jamais vécu en Belgique, ils connaissent la Belgique uniquement parce que nous on va jouer la prochaine Coupe du Monde et les Français peut-être pas, ça on verra ce soir, mais en toute hypothèse, ceux-là sont bel et bien assujettis à la sécurité sociale belge. Alors il faudra le critère de rattachement qui sera alors le lieu du travail du parent qui ouvre le droit à la sécurité. A l'inverse, vous avez des personnes qui habitent Eupen, qui travaillent à Aix. Il a deux enfants belges qui habitent en Belgique. Tout le monde est belge, mais le papa travaille à Aix. Eh bien, il est soumis au système de sécurité sociale allemand, et donc les allocations familiales sont les allocations familiales allemandes. C'est un grand problème pour M. Lambertz, non pas parce que ce serait compliqué là-bas, mais parce qu'il a beaucoup de frontaliers, et donc toutes ces personnes-là, il ne les gère pas, en fait. Hein. Donc, et la communauté germanophone, attention, par contre, là, pour eux, il y a un vrai effet d'aubaine, parce que comme c'est les enfants de 0 à 18 ans domiciliés chez eux, ils ont beaucoup de frontaliers, ils vont toucher bien plus que ce qu'ils auraient normalement. Mais pour une fois, ça les avantage, parce que normalement, le fait d'avoir beaucoup de frontaliers chez eux, par exemple en clé de répartition IPP, hein, ce que M. Lambert rêve parfois un peu comme ça, assez bruyamment, de devenir une région, je lui ai toujours dit, mais vous pouvez demander beaucoup de choses, mais si vous aviez une clé IPP appliquée à vous, demain vous pouvez tout éteindre, parce qu'alors on n'a plus d'argent. Hein. Parce qu'évidemment, la clé IPP... elle est calculée sur l'IPP généré dans la région et donc les frontaliers vous échappent. Mais pour les allocs familiales, là, pour une fois, ça tombe bien. Voilà. Oui, monsieur.
Les partis politiques francophones ont présenté un accord intra-francophone de gestion des compétences.
C'est vrai,
oui. Communautaires transférées. Ouais. Est-ce que d'après vous, cet accord est possible? Est-il possible d'implémenter cet accord, sachant que les compétences impossibles transférer à la
COCO? C'était déjà Napoléon qui disait que rien n'était impossible, non? Non, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dur et voilà, le résultat sera celui qui sera possible d'atteindre. Maintenant, il faut tout de même se dire que la communauté française n'est pas en mesure d'exercer financièrement la compétence en matière d'allocation familiale. Elle n'est pas en mesure de faire ça. Honnêtement, je crois qu'elle n'est pas en mesure. La communauté Benjamin Lefon, en principe, non plus, mais elle ne peut parce qu'elle a cette situation tout à fait particulière d'avoir un effet d'aubaine tout à fait, surtout au microclimat à Eupen. Mais c'est pour ça que ça marche, mais uniquement pour ça. Mais si dans la loi spéciale, il y avait la clause les enfants de 0 à 18 ans, déduction faite des frontaliers, bon, mais elle n'est pas dedans. Hein, elle n'est pas dedans. Bon. Pour les grandes régions, ça se pose pas trop, parce que là, il y a les frontaliers, mais dans un sens comme dans l'autre, et finalement, ça s'équilibre. Donc, je crois qu'il est, de bon ton que vous donniez ce gros transfert, quand même, de tous les transferts, rationné matériel, c'est celui qui, pour le seul poste, est le plus lourd. On n'a jamais transféré 6,4 milliards d'euros pour un seul truc, hein. Jamais, hein. Non, et hein. Même l'enseignement était moins cher. Donc, c'est un énorme truc. Alors, quand vous mettez ça à charge de l'institution, je suis agent de la communauté française, puisque je suis agent de la seule université que cette communauté a, mais je voudrais quand même dire qu'avec tout le respect que j'ai pour ces institutions et son illustre ministre, etc., que malgré tout, je dois vous dire que ça, elle ne peut pas supporter. Et donc, vous devez donner ça à quelqu'un qui a par ailleurs une capacité fiscale de compenser. Capacité fiscale qui ne peut pas non plus faire des folies, mais qui en tout cas peut éviter une situation de déconvenue financière. Et donc je crois que la question n'est pas, alors on peut dire, et ça c'est une vision régionaliste, la question c'est pas, je crois franchement, avant même de... Le débat sur le régionalisme ou le communautarisme, pour moi, est un débat qui n'a de sens que s'il y en a des moyens financiers de part et d'autre qui permettent ce débat. Je crois que pour un poste comme celui-là, non. Demandez si l'hygiène dentaire dans les écoles doit être régionalisée ou communautarisée. Ça, franchement, on peut en discuter aussi longtemps, parce que là, vous avez une marge politique. Parce que ça, on peut le faire chez l'un ou chez l'autre. Mais un truc aussi gros comme celui-là, comme vous dire, le budget de la communauté française, c'est 9,7 milliards. Alors, je peux vous dire ce qu'elle va recevoir. Je pourrais chercher l'article 47.5 pour vous dire ce qu'elle touche pour les allocs familiales, pour vous montrer à quel point c'est énorme. Attendez, je peux vous chercher ça, comme ça, vous avez une idée. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le montant.
Vous ne connaissez pas le chiffre.
Ah, je suis, voilà. C'est ça.
Il fallait faire le déplacement.
Dans la loi, il n'y a que le montant global.
Il n'y a que le montant global.
Non, mais généralement, il connaît, ouais. Même pas dans la loi.
Voilà, vous me rassurez. Donc, ce n'est pas que je ne l'ai pas vu, il n'est pas dedans. Parce que pour d'autres dotations, c'est déjà ventilé. Mais pour celui-là, pas encore. Voilà, voilà.
Il n'y a que les 6 milliards 4.
Mais voilà, on va voir. Et selon vous, on serait à combien pour la communauté française?
On doit être aux alentours de 38%, quelque chose comme ça. 38,41%, quelque chose comme ça.
Ouais, ça nous fait un bon 2 milliards, quoi. Hein.
Je n'ai pas les documents des Comoris en tête.
2 milliards et demi.
Milliards, oui.
Bah, vous imaginez, vous ajoutez à 9,7 milliards, vous ajoutez 2,8 milliards. Quand vous avez un conclave budgétaire à la communauté, ça discute sur quelques billets, hein. Tellement la marge est étroite, et c'est pas du tout une reproche à qui que ce soit à l'égard de le gouvernement, c'est que la marge est totalement étroite parce que la part de Lyon, et pas seulement la part de Lyon, mais la part du Lyon et du Lyonceau, et enfin de toute la famille de Lyon, est consacrée au paiement des traitements des fonctionnaires et des choses que vous devez payer. Et donc être le poste le plus frustrant dans ce pays, à mon avis, le poste ministériel le plus frustrant, c'est le ministre du budget de la communauté française. Franchement, le type qui s'amuse avec ça, franchement, c'est bien. Parce que là, vous avez une marge qui est infime. Voilà, et donc, lui donner ça à la communauté, avec les défis qui sont les siens, honnêtement, je crois que ce n'est pas très raisonnable. Ou alors, si c'était pour dire, on lui donne 10 ans et après on change, alors autant on change maintenant, tout de suite, hein, parce que ça, je crois que ce n'est pas raisonnable. Sans parler d'un autre problème, et ça, c'est un problème conceptuel, qui est que... Et là, je dois vous dire que tant les Bruxellois que les Wallons auraient un problème, pour une raison très simple. La communauté est financée par une dotation, hein, du fédéral. Il n'y a pas d'autonomie fiscale propre. Cette dotation a vocation à servir tous les francophones, Bruxellois comme Wallons. Or, qui à Bruxelles paye les allocs, la COCOM? Est-il normal que la communauté française reçoive de l'argent comme dotation dont les seuls bénéficiaires sont les Wallons? Et je le dis exprès, habitant à Liège, parce que même comme aussi liégeois qu'on peut être, on aperçoit tout de même immédiatement qu'il y a un problème. Hein? Aussi, Est-il raisonnable que des décrets de la communauté française sur les allocations familiales soient votés à 94 membres, c'est-à-dire les Bruxellois inclus, là c'est l'argument dans l'autre sens, pourquoi le député de la communauté française qui habite Uccle aurait à décider du montant des allocs à payer à Liège alors que lui-même n'y est pas soumis? L'une des saines règles de gestion parlementaire, c'est qu'une loi que vous votez doit toujours vous être à vous-même applicable. Sinon, si vous habitez vous-même en dehors du champ d'application de la norme que vous votez, c'est très mauvais. Très mauvais. Et donc, vous avez un argument, d'une part, de non-représentation des francophones de Bruxelles dans la recette, et une sous-représentation des francophones de Bruxelles dans les normes qui règlent cela. Et donc c'est pour ça qu'à mon sens, la communauté, pour ce truc, puisque la COCOM est compétente exclusivement à Bruxelles en matière d'alloc, n'est pas le bon réceptacle. Alors, bon, la Constitution, enfin la loi spéciale dira c'est les communautés, mais comme la clause 51 permet d'en retransférer l'exercice, la voie me paraît pas dépourvue de cohérence, que du contraire.
Je voudrais rebondir sur la question que vous avez posée, mon avis, elle est plus loin que cela. Oui. Dans les accords dits de la Sainte-Émilie, je pense qu'il y a une page et quelques lignes sur les allocations familiales, mais il y a en tout cas la volonté d'aligner autant que possible les allocations familiales payées en région wallonne, effectivement après avoir fait jouer le mécanisme de la Saint-Quentin, sur Bruxelles. Or, Bruxelles, j'aurais voulu que vous disiez quelques mots là-dessus, étant donné le mode de décision à la COCOM et le poids ou la capacité de blocage de la minorité flamande de Bruxelles, est-ce que les Bruxellois ne voudront pas s'aligner plutôt sur la Flandre plutôt que sur la Wallonie, les Bruxellois flamands? Et par conséquent, est-ce que ce transfert de compétences n'arriverait pas à ce superbe paradoxe dans lequel tout le monde va s'aligner sur ce que on va décider en Flandre, puisque la COCOM suivra et que la région wallonne n'aura d'autre choix?
Je vous comprends. La question est très intéressante.
C'était le sens.
Ah voilà, ça va, très bien. Pardon, mais je ne l'avais pas perçu comme ça. Très, très bien.
C'était le sens de ma question. À
c'est
partir
ça.
Du moment où on décide un alignement de Bruxelles sur l'une ou l'autre communauté, est-ce qu'on ne reviendra pas à un système qui sera totalement intégré?
Oui. Alors ça serait évidemment l'ultime ironie du dossier. Hein. C'est que parce qu'il serait politiquement inacceptable pour la classe politique flamande de traiter les Flamands de Bruxelles différemment des Flamands de Flandre, et politiquement inacceptable au sud de traiter les Bruxellois francophones différemment des francophones de Wallonie, que les montants finalement seraient tous les mêmes. Bon, écoutez, ce n'est pas, je vous dis, ce n'est pas dérangeant. D'ailleurs, ça démontrerait qu'on n'aurait jamais dû scinder, alors. Hein.
Non.
Mais...
Pas forcément. Hein.
Pas forcément.
C'est-à-dire que le rêve de 93, mais qui est un rêve qui a été avorté, par le mécanisme de la coopération, c'était à la limite de restaurer un droit commun à l'ensemble du territoire, mais à laquelle chacune des entités souscrivait librement et n'avait pas le sentiment de subir une décision prise par une autorité fédérale, par définition dominée par les autres. Donc, si on arrive à ça, que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre, c'est pas gênant en soi. Au contraire, à la limite, c'est de la démocratie fédérale au sens premier du terme. Donc, et c'est pas pour ça qu'il faut le refonder au niveau fédéral, justement. Ça veut dire que chaque entité, en fonction de ses intérêts propres, peut avoir à un moment donné intérêt à la reconstitution de règles communes, mais auxquelles elle souscrit librement. Donc,
Maintenant, je dois vous dire que si vous me demandez ce que vous n'avez pas fait, mais je vais quand même y répondre, même si vous ne l'avez pas demandé, si je tiens ça pour, ça c'est l'avantage d'être le conférencier, on peut répondre à des questions que personne n'a posées. C'est que, est-ce que c'est probable ça? Moi je ne crois pas. Pour une raison très simple, c'est que précisément, notamment la question du rang se pose à Bruxelles d'une manière telle que, et de manière très différente qu'en Flandre, parce que je crois que la Flandre a un problème de vieillissement de la population, je crois. En tout cas, beaucoup plus que Bruxelles. Je ne suis pas sûr. Peut-être le montant de base pour le premier enfant sera peut-être le même, mais au-delà, je ne suis pas sûr. Alors, d'autre part, puisque Marc en a parlé, la question de la coopération est une chose extrêmement précieuse. Toutefois, il y a une chose à laquelle je serais pour ma part très sensible, et ça c'est avec AI, c'est pas au conditionnel, j'y serais sensible, c'est que il ne faudrait pas que parce que on veut créer des synergies avec la COCOM et que la COCOM à son tour est intéressée avec des synergies à la Flandre, qu'on se met dans une sorte de sarcophage législatif duquel après il est impossible de sortir parce qu'on s'est lié dans les accords de coopération desquels il serait impossible de sortir, et qu'en réalité, parce qu'alors là, je trouve que comme Wallon, j'aurais un problème, que vous êtes complètement dépossédé de l'exercice libre d'une compétence à Namur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la classe politique flamande, voulant maintenir le lien entre la Flandre et la COCOM, rendrait impossible une décision à la COCOM, impossibilité qui à son tour rejaillit parce qu'il y a un accord de coopération entre elle et la région wallonne sur le Parlement à Namur. Ça, je suis désolé, ça pour moi n'est pas acceptable. Et donc je crois que coopération c'est très bien, les accords de coopération c'est magnifique, mais alors il faut une clause de sortie, à mon avis, parce que sinon vous vous mettez dans une situation où vous avez des accords indénonçables qui peuvent, comme vous le savez, alors être conditionné par l'infime minorité que constituent les néerlandophones de Bruxelles, que je stigmatise en rien. Mais comme à l'intérieur de la COCOM, ils ont cet extraordinaire privilège de pouvoir, à eux seuls, dans le collège réuni, bloquer les décisions, je suis désolé, il n'y a pas de raison que l'habitant de Herstal soit paralysé parce qu'à la COCOM, il y en a deux qui, à Bruxelles, disent que nein. Ça, je suis... Électoralement, c'est un très mauvais message, ça. Donc, je crois que la synergie est très bonne. Il faut la maintenir dans toute la mesure du possible. Mais il faut se rendre compte, dès lors qu'on ne sait pas quelle sera la situation institutionnelle de la COCOM à moyen terme, et connaissant sa grande vulnérabilité institutionnelle, je crois qu'il faut, côté wallon, et ça n'a rien d'hostile à l'égard des Bruxellois, enfin, il n'y a pas de raison de sauter dans un bateau comme celui-là, dont on sait qu'il y a, même pour des manœuvres simples, toujours deux capitaines. Ça, c'est le cas de la COCOM. Hein. Donc, la COCOM, de ce point de vue-là, n'est pas un réceptacle extrêmement aisé.
Ouais. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'on n'est pas finalement quelque part dans la même situation via un détour à l'article 23? Parce qu'on parle ici d'autonomie décisionnelle dans cette nouvelle compétence, mais la sécurité sociale ayant été isolée au sein du article 23 et de la clause de standstill, quelle va être la réelle marge de manœuvre de
Ouais, vous savez, la clause de standstill, je crois que c'est pour vous dire, bah, c'est sympa politiquement, on peut dire vous avez clause de standstill, mais enfin, il y a des arrêts du Conseil d'État, section contentieux, qui disent qu'il faut une régression substantielle. Ben écoutez, j'ai justifié par ailleurs, si vous dites, évidemment, vous me demandez, enfin, je peux vous répondre, il n'y a pas de dossier concret qui nous serait soumis. Si la question était, est-ce qu'on peut envisager la réduction pour un deuxième, un troisième enfant, de réduire cela ? Moi, je vois que vous n'êtes pas privé d'un droit aux allocations familiales, moi, je ne vois pas le problème. Au demeurant, le Conseil d'État a même reconnu, section du contentieux, donc ça n'engage pas la section de législation, mais enfin, la section du contentieux a expressément dit que des raisons budgétaires pouvaient constituer une justification valable.
La Cour constitutionnelle l'a dit, redit et répété.
Oui, c'est ça. L'article 23, il est... Bon, c'est sympa qu'il soit là. Il y a des gens qui se promènent avec l'article 23 tous les jours et ils le sortent à toute sauce. Mais pour ma part, je dois vous dire que le 23, pour moi, c'est assez joliment résumé, oui.
On modifie, en plus on ajoute les AF dedans, oui, spécifiquement, voilà. Donc on les sort de la sécurité sociale, même à ce niveau-là.
Ouais. Allez Vanessa, dernière question.
Je voulais rebondir sur le 23 et sur l'obstacle. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'obstacle intellectuel à pouvoir transférer les autres branches par après, et là, sauf, vous avez évoqué l'article 23 précisément, cet avis du Conseil d'État qui précise qu'il ne faut pas porter de façon atteinte, de façon substantielle à celle de l'article 23. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mécanismes, notamment l'article 128 de la Constitution, ou d'autres choses qui permettraient justement de ne pas transférer d'autres branches, vu que quand même, d'un point de vue économique, bon, en tout cas, on soutient encore qu'il vaut mieux garder un niveau le plus haut possible, toujours la sécurité sociale.
Ouais. Alors attention, hein, 23-là et 23-là n'est pas le même sens. Hein. Ici, on parlait de la clause de standstill. Moi, je parle ici du concept sécurité sociale qui est dans l'article 23. Et là, évidemment, ça, c'est pas pour moi la petite eau, hein. Ça, c'est très important. On dit dans la Constitution qu'il y a une sécurité sociale, c'est-à-dire fédérale, puisque le 23 est de 93, hein. Donc, ça, c'est... Bon. Et donc, il y a une sécurité sociale fédérale dans ce pays. C'est la Constitution qui le dit. Ça, c'est très important, ça. Et ça, pour la première fois, ça a été dit dans l'Assemblée générale du mois d'août, et je garde un très bon souvenir de lecture de ces avis. Parce que je crois que ça, c'est très important, ça. Ça, c'est très important. Et donc, le Conseil d'État doit à chaque fois vérifier s'il y a un tel transfert, s'il y a atteinte majeure à ce concept de sécurité sociale fédérale. Alors, bien sûr, on peut encore transférer un tout petit peu, mais la question se posera quand même, et alors deviendra fondamentalement celle, je crois même, de la raison d'être même de ce projet sociétal belge. Enfin, si vous voulez mon avis, c'est celui-là.
Très bien, je trouve que c'est une super...
C'est une dernière petite chose concernant la compétence entre les régions. Pour les personnes qui sont à l'étranger, dans la pratique, théoriquement, le politique voudrait que ce soit rattaché à l'employeur ici en Belgique. C'est très beau, vu de dessus, mais au niveau pratique, c'est presque irréalisable.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'il faut rattacher ça à un employeur actuel ou un employeur passé, ça peut être un pensionné qui est en Espagne, par exemple.
Bien sûr, ouais.
Mais surtout, dans les DMFA, ce qui est la base de paiement des allocations, le siège d'exploitation ne figure pas.
Il va falloir l'introduire.
Donc, ou bien alors, il faut prendre une vision macroscopique et dire il y a autant de pourcentage, on fait la réponse.
Mais on a jusqu'en 2019, mais il va falloir le faire. Et pour vous donner un exemple, pour aller à l'extrême, vous avez l'ambassadeur belge à Sydney qui a des enfants. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais supposons qu'il y a des enfants qui sont avec lui et son épouse à Sydney. C'est un fonctionnaire belge. Il a droit aux allocations familiales et comme vous le savez, le corps diplomatique a la possibilité de se domicilier dans l'ambassade. Vous pouvez vous domicilier dans l'ambassade. Donc, monsieur est ambassadeur belge à Sydney et résident à Sydney et assujetti à la sécurité sociale belge. Laquelle des communautés doit payer ? Mais en même temps, je crois qu'honnêtement, quand on a « if we solved everything up to there », that is the last thing which troubles me. Ça, on va pouvoir faire. Ça, je crois qu'honnêtement, je veux dire. Mais ceci, la question est belle. C'est la petite cerise sur le gâteau. Et le gâteau vient après la fin du repas. Et je peux, de la sorte, j'essaie en tout cas faire la transition vers.
À la fin.
Voilà.
En tout cas, je te remercie pour le gâteau, pour la cerise, pour la crème. Et comme promis pour les chiffres et le caractère polyglotte. C'était vraiment extraordinairement clair et adressé.